Alors, on m'a demandé d'apporter la prédication aujourd'hui. Ça m'a semblé logique de garder le thème de l'enfance, en fait, puisque c'est le culte de passage. Et j'ai choisi de parler plus particulièrement de ce que l'enfant peut nous montrer en tant que modèle et quelle est sa place dans l'Église. Deux questions que je me suis posées. Roland, il avait choisi lors du culte de présentation, qui n'est pas si vieux que ça, d'un texte où Jésus accueille les enfants, où il les bénit. Vous vous rappelez peut-être de ce texte bien connu, où il dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas ». Et Michel, il y a quelque temps, avait pris un texte où Samuel, le jeune Samuel, était... utilisé par Dieu pour communiquer quelque chose à part, pour entendre et communiquer quelque chose. Moi, j'ai choisi un autre texte dans Matthieu 18, où Jésus parle des enfants. Alors, il sera projeté. Peut-être qu'on pourrait le laisser aussi par la suite. Je vais lire dans ma version, un peu différent, mais c'est pas très grave. Versets 1 à 6. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Jésus appelle un enfant, il le place devant eux. Et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. » Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Je me suis arrêtée un peu tard, vous me direz. Mais je trouve que ce texte fait partie, hein, le verset 6 fait aussi partie de tout le texte. Alors, on a les disciples qui posent la question, qui est le plus important dans le royaume des cieux ? Dans un des textes parallèles, c'est Jacques et Jean qui demandent carrément pour eux la première place. Et moi, ça m'a toujours choquée quand même. Je dis, mais ils sont orgueilleux, ces disciples, quel culot. Vous me direz, oh, mais tout le monde est orgueilleux un jour ou l'autre. Je crois quand même que Jésus dit clairement que c'est inacceptable. Hein. Il dit, si vous ne changez pas, vous rentrerez pas. C'est si clair que ça. Donc, non, ça va pas, cette attitude-là. Les disciples doivent changer. Et c'est là que Jésus surprend en prenant un enfant comme exemple, comme modèle. Et qu'il dit, il faut devenir comme un enfant. Alors ça, c'est quelque chose qui a perturbé beaucoup de personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir... dire, je peux pas redevenir un enfant. Est-ce que ça veut dire devenir naïf? Est-ce que ça veut dire redevenir petit? Bon, c'est pas vraiment possible. Naïf, on peut faire des efforts, mais c'est compliqué. Dans la version qui était affichée, c'était mis si vous ne devenez pas humble comme un de ces enfants. Ça donne peut-être déjà une petite piste. Alors, tout d'abord, l'enfant, lui, c'est vrai qu'il est humble parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout. Il sait qu'il a encore plein de choses à découvrir. Et puis, du coup, il est ouvert. Hein. Si on lui apporte quelque chose, oui, logiquement, hein. Il y a une certaine ouverture. Et puis, il a d'autres qualités qui font qu'il a une spiritualité qui est assez naturelle, l'enfant. Et je me suis inspirée du livre de Caroline Berchi Lopez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est sorti l'année dernière, ce livre qui s'appelle « Les enfants portiers du royaume ». Elle relève des qualités des enfants qui font qu'ils ont des expressions spiritualité qui font que certainement Jésus les cite comme exemple. Hein. Alors l'enfant, il est curieux, vous avez vu hein, tout de suite. Il est curieux, il se questionne, il a cette vivacité-là. Il a aussi une confiance dans la vie, des fois dans les personnes, qui est quelque chose de naturel. Moi, je me rappelle mon aîné, quand il était tout petit, j'avais des fois souci qu'il parte avec quelqu'un dans la rue parce que tellement il était confiant. Vous voyez ? C'est naturel pour un petit d'être confiant. Et puis, un enfant, il a une foi qui est innée, la capacité de croire et l'envie de croire. Il a aussi une ouverture à ce qu'il dépasse complètement, ce qui le transcende, Dieu, la nature. C'est quelque chose où il va être ouvert naturellement. Et puis, il est aussi à l'aise avec le mystère. Quand il y a du mystère, ça ne dérange pas du tout un enfant. Il peut y avoir une contradiction apparente. C'est pas grave, hein. Il est à l'aise dans ce genre de contexte. Il est dépendant et il sait qu'il l'est, l'enfant. Il est dépendant de ses parents déjà, d'autres personnes. Et c'est peut-être quelque chose que le disciple doit aussi apprendre à être dépendant. Il a une belle capacité de s'émerveiller. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on a à apprendre aussi. Il a de l'imagination, il aime tout ce qui est imaginaire. Et quelque chose de fondamental, il sait habiter le moment présent. Alors je disais, il est pas question de devenir naïf, je crois pas. Mais je crois que Jésus, il veut nous pousser à être ouverts au mystère, à ce qui nous dépasse. Curieux, confiant, présent, dépendant et émerveillé. On pourrait allonger la liste. Hein. Voilà, tout ça, ça fait partie de qualités essentielles pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Et ça, ça fait que les enfants sont cités en exemple. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais alors, quelle est leur place puisque eux, ils sont naturellement comme ça. Alors, c'est clair, ils ont leur place dans le royaume des cieux. Jésus vient de le dire. Hein. C'est clair. Et on peut se poser la question, alors du coup, quelle est leur place dans l'Église, s'ils ont leur place dans le royaume des cieux? Est-ce qu'ils font partie à part entière de l'Église ou est-ce qu'ils sont dans une sorte d'antichambre juste avant l'Église? Alors, si je soulève ce sujet, c'est que c'est assez délicat dans nos églises qui sont des églises professantes. Le statut de ces enfants. Parce que nos églises pratiquent le baptême d'adultes, comme on l'a vu la semaine dernière, avec des adolescents ou des adultes qui professent leur foi et qui deviennent membres de l'église d'une façon volontaire. Il y a vraiment une profession de foi au moment du baptême. Donc, des fois, il y a quand même une espèce de zone grise avec les enfants des croyants. Où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas forcément capables de professer leur foi, mais ils ont leur place dans leur royaume. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas les considérer comme extérieurs à l'Église, comme étrangers à l'Église, puisqu'ils ont leur place au ciel. Hein. Si on regarde un peu dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'attache à une personne, il s'attache souvent à ses descendants avec lui. Si on prend l'exemple d'Abraham, où Dieu crée une alliance avec Abraham, il l'étend à ses enfants. Il dit « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes les générations. » Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Et on a cette fidélité de Dieu qui traverse les générations, qui est un peu une constante dans l'Ancien Testament. On retrouve souvent ça, hein. Je bénirai de génération en génération. Dans le Nouveau Testament, on a moins de textes qui parlent de ça. On a la lettre aux Corinthiens avec Paul qui dit que les enfants sont sanctifiés par la foi de leur père ou de leur mère. Vous connaissez peut-être ce texte, c'est dans 1 Corinthiens 7, 14. Alors des fois, l'interprétation de ce texte est un peu débattue. Est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont sauvés par la foi d'un de leurs parents? Ou est-ce qu'il faut comprendre qu'ils ne sont pas étrangers au peuple de Dieu à cause de la non-foi d'un de leurs parents? Parce qu'en l'occurrence, Paul parle de couple mixte où il y a un croyant et un non-croyant. Du coup, qu'est-ce qui arrive aux enfants? Les églises qui baptisent les enfants souvent se rattachent à ces textes-là, vous voyez? Hein? Abraham, l'Alliance, toutes les générations. Et puis, les enfants sont sanctifiés. Et c'est pour ça qu'ils le font comme ça, que l'enfant, finalement, fait partie de l'Église dès la naissance. Donald Cobb, qui est professeur à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, qui pratique le baptême des enfants, mais qui est une faculté évangélique, réformée évangélique, il dit ceci, les enfants sont intégrés avec leurs parents à la même réalité d'alliance et à l'Église. Bien sûr, ils doivent se positionner personnellement par rapport au Seigneur de l'Alliance. Mais avant même de parler de la réponse de ces enfants, que ces enfants sont appelés à donner, Paul évoque leur statut dans le Seigneur. Statut qui leur permet d'entendre l'Évangile, d'y goûter de façon intime, et l'ayant expérimenté de le recevoir pleinement. Je trouvais que c'était assez intéressant sa façon de dire que les enfants sont là, donc ils ont accès. Dans les Actes, il y a aussi à plusieurs reprises des textes qui parlent des enfants en les associant à la démarche de foi, au salut, parfois même au baptême de leurs parents. Par exemple, Paul et Silas, dans Actes 16, où, qui disent aux gardiens de prison, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » On englobe finalement toute la famille dans la démarche de foi de ce gardien. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est pas pour dire que les enfants sont des croyants sont... ou seront automatiquement sauvés. Bien sûr, on l'aimerait. L'alliance, ça reste quelque chose de relationnel et il faut une démarche de foi. Mais les enfants sont là, ils sont quand même dans le peuple de Dieu, ils ont accès et ils baignent dedans. Voilà. certains enfants ont une foi vraiment sincère et je crois que Jésus le dit clairement. Hein. L'attitude de Jésus, d'ailleurs, elle est un modèle pour nous pour savoir quoi faire avec des enfants jeunes, hein, des petits. On voit qu'il a une attitude bienveillante, qu'il les accueille, il les défend, il les embrasse, il les bénit, il les guérit. Et dans sa façon d'être, Jésus considère pas l'enfant comme un adulte en devenir, mais comme une personne. Et son jeune âge, son manque d'expérience, le fait qu'il ne professe pas forcément sa foi, eh ben, ce n'est pas une entrave. Au contraire, hein, Jésus lui reconnaît une aptitude naturelle à entrer dans le royaume. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il dit, ben, verset 5, on a lu tout à l'heure, il nous appelle à accueillir les enfants. Je vais peut-être juste relire la fin du texte, verset 5. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qui le reçois. C'est... Waouh ! C'est pas rien, hein ? Accueillir Jésus en accueillant un enfant. Donc, d'où l'importance, bien sûr, en tant que chrétien, on veut accueillir Jésus, donc on va, on va accueillir aussi les enfants de par là. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Pourquoi, quand on accueille un enfant, on accueille Jésus ? Moi, j'ai fait le parallèle avec d'autres textes où Jésus dit la même chose avec d'autres personnes. Les textes qui disent si vous visitez des malades, si vous nourrissez des pauvres, etc., c'est à moi que vous le faites. Vous voyez à quoi je fais référence, hein ? Je crois que Jésus s'identifie aux petits, aux fragiles, aux pauvres. Et du coup, ça place l'enfant parmi ceux-là, parmi ceux qui sont fragiles. C'est vrai que l'enfant a des qualités spirituelles naturelles, mais il est fragile, il est petit et fragile. D'où le verset 6 que je ne vous ai pas épargné et qui nous met face à nos responsabilités. D'accueillir et de ne pas faire chuter. Comment, ouais, cette espèce de texte, attention à ne pas être une occasion de chute. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on pourrait être une occasion de chute ? Ça voudrait dire finalement choquer la foi d'un petit, le faire douter, le faire se tourner loin de Dieu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faut veiller, bien sûr, les paroles, l'attitude, d'être... de ne pas abuser de notre pouvoir d'adulte face à un enfant. Ouais, je dis toujours aux moniteurs, attention à ce qu'on dit aux enfants, toujours dire quelque chose qui est vrai et qui reste vrai. Parce que on pourrait avoir envie de tout simplifier, faire un espèce de conte de fées de la foi, mais c'est pas à long terme juste. Hein. Ça devient une pierre d'achoppement à un moment donné. Il faut dire des choses vraies avec des mots simples. Alors, donc, ça me semble clair que notre travail, il est costaud, accueillir l'enfant, veiller aussi à lui, ne pas le faire chuter, l'encourager dans son cheminement spirituel aussi. Et puis, je parlais d'une espèce de zone grise où on mettait des fois les enfants... je crois aussi que nos églises professantes, elles ont des fois beaucoup accentué la conversion. Il y a l'avant, puis l'après. Et en fait, si on est tout à fait honnête, je crois que la vie chrétienne, elle est plus comme un cheminement que comme juste deux étapes. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et je crois que Dieu, il est présent à chacune des étapes. Et l'enfant, il est à une étape, on ne sait pas laquelle. Et Dieu accompagne ça dans sa grâce. Voilà, je ne voulais pas faire trop trop long parce qu'on a un culte qui est déjà bien chargé. Mais je voulais laisser quand même un petit moment de silence pour peut-être laisser, se laisser interpeller par une chose ou l'autre. Et se laisser rejoindre ce matin parce que Dieu veut nous dire.